Io sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo. Matteggio a prepotente, a picchiatello, poi saputello, eppure nulla so. Marcello, io sono il piccolo Marcello, baffutello, sbarbatello, sfrontatello e spacciatello.
Marcello,
son più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello,
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ce l'ho, ma chi che bingrindina, chi ce l'ho? Marcello, son fatuo con un vendicello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma.
Bonsoir e benvenuto su Nino Domani a Palermo, Radio Galera, Canto.it.4 FM. Nel rattepale podcast sulle site radiogaler.org, Antappane, non dell'emissione Nino Domani a Palermo. Il tu le tot podcast, chi sono entrando dentro le mise a Nigne. E voilà, aujourd'hui on commence une série d'émissions, qui parlerò de un personnage emblématique de la culture italienne, ma non seulement, on va dire, de la culture mondiale, c'est Galileo Galilei. Galileo Galilei è un grand scientifique, comme tu le sais, tout le monde sait, mais c'est aussi un grand philosophe, c'est aussi un grand écrivain. On a Galileo Galilei, les sait son emprise, non seulement sulla science moderne e sulla filosofia moderna, ma aussi sulla façon d'écrire, perché Galileo Galilei ha utilizzato le vulgare florentin come langue de la science, avant c'était le latin, tous les traités étaient écrits en latin. Galileo Galilei è un'écriture, le vulgare florentin étaient déjà utilisées à partir du Moyen-Âge, on a vu avec Dante. Mais Galilée, il a une écriture qui se rapproche beaucoup plus de la modernité italienne. On pense à des écrivains comme Manzoni du 19e siècle, plutôt que à ses contemporains ou pré-contemporains comme Tasso ou Ariosto, qui sont d'une génération précédente à la sienne. Donc Galileo Galilei è di una modernità enorme, aussi dall'écriture. E il faut dire che l'écriture di Galilei è una seule chose avec sa méthode scientifique. C'est ça la nouveauté, la complessité de son pensée, il est porté avant par cette besoin de dialoguer, d'écrire, d'évoluer un public toujours plus large, qui ne sait pas le scientifique ou le chercheur, mais c'est une bourgeoisie illuminée, une bourgeoisie et les classes dirigeantes de l'époque. Mais comme il se réfère aux classes dirigeantes de l'époque, il utilise une langue qui est aussi compréhensible par la fanta, c'est la servante. Il utilise une langue très populaire. Cette rhétorique galiléen, c'est quelque chose qui est essentiel pour la diffusion de son méthode scientifique et va avec le développement du méthode scientifique galiléen. Après, Galilée, c'est un grand philosophe. Pourquoi? C'est à tout le monde le connaît, parce qu'il change la vision avec d'autres scientifiques de cette époque-là, comme Copernic, comme Kepler. Il bascule la vision de l'héliocentrisme, la théorie ptoléméique, la théorie portée avant par Aristote, la théorie portée avant par l'Église, ça veut dire le système selon lequel la Terre est à la Terre, les planètes Terre tour della planeta Terre. Donc, Galilée, il inverte cette théorie. Il dit non, la Terre tourne autour du Soleil. Donc, il y a l'héliocentrisme copernicain qui est porté avant par Galilée. Et aussi le mouvement diurne de la Terre. Mouvement diurne de la Terre, ça veut dire le mouvement de la Terre que la Terre accomplit sur son axe dans les 24 heures. Ça, c'est une vision qui a totalement bouleversé l'homme du 600, du 17e siècle, parce que jusqu'à maintenant, il y avait la conviction que le ciel était sacré, le ciel était immuable, le ciel était quelque chose d'intouchable, parfait, et la terre était imparfaite. Donc le fait que le ciel pouvait se déplacer, que les astres pouvaient se déplacer, les étoiles pouvaient se déplacer, il change cette vision immuable de l'univers qui est portée avant par Aristote et après par l'Église dans le Moyen-Âge. Et aussi le fait que la Terre n'est plus au centre de l'univers, mais un planète comme tous les autres, comme tous les autres planètes, comme tous les autres étoiles, qui tourne autour du Soleil, dans le cas des autres planètes del nostro sistema solare, tourne autour du Soleil, e cette découverte-là, il met l'homme du 1600, l'homme de l'époque baroque, en crise, parce qu'il n'est plus le centre du monde, selon les Ptolémiques, selon les Aristotéliciens, il n'est plus le centre du monde, l'homme. Parce qu'avant, avec le Moyen-Âge, l'homme et la Terre, c'était le centre du monde. Galilée dit non, nous, on n'est pas le centre du monde. Le centre autour auquel on tourne, c'est le Soleil. C'est plus la Terre. Et donc, cette crise de l'homme qui n'est plus au centre du monde est renversée, par contre, par Galilée. Parce qu'en même temps, Galilée, il nous dit ok, on n'est plus le centre du monde, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est rien. Ça ne veut pas dire. Au contraire, on a fait des découvertes qui nous ont ouvert l'espace, qui nous ont ouvert l'exploration dans l'espace, qui nous ont ouvert la connaissance. Donc pourquoi être en crise? Pourquoi être moins, se percevoir moins par rapport à avant? Cette théorie presque della modernità, l'homme en crise, pourquoi être en crise? Nous, avec les découvertes scientifiques, on donne les instruments pour connaître la réalité telle qu'elle est. Et il faut aimer la vérité. Il ne faut pas se cacher derrière des syllogismes, des théories logiques qui nous amènent à rien, qui sont que des spéculations. Il faut se baser sur l'évidence, il faut se baser sur l'expérimentation. Une fois que tout est basé sur l'expérimentation, le monde est ouvert. La connaissance est ouverte et donc cette ouverture qu'avant on n'avait pas parce qu'on ne se basait pas sull'évidence ma che c'est su des théories spéculatives, cette ouverture basée sur l'évidence d'une nouvelle méthode scientifique nous permet pas d'être en crise mais plutôt de dépasser la crise, dépasser aller au-delà de la crise. Donc l'homme, oui, n'est plus au centre de l'univers, la Terre, oui, n'est plus au centre de l'univers. Mais en même temps, on a conscience de nous-mêmes et ça nous doit rapprocher à la réalité de l'univers plutôt qu'être marginaux par rapport à l'univers. En fait, il y a un grand metteur en scène, Bertolt Brecht, qui soulignera cette modernité, cet héroïsme moderne de Galilée. Galilée qui se bat pour la vérité, Galilée qui se bat pour la nouvelle science. Et cette constance dans sa polémique, il était un personnage très polémique, il a fait de la polémique un style d'écriture, il a fait de la polémique la forme préférée d'écriture de Galilée, c'était le dialogue. Dans le dialogue, Galilée pouvait se confronter avec ses personnages en faisant de la polémique. Il était entouré de péripatéticiennes, d'aristotéliciennes qui faisaient de la polémique. Donc il a fait de la polémique un style de rhétorique, un rhétorique par contre simple, un rhétorique par contre basé sulla langue italienne, sulla langue vulgaire. Donc cette révolution, cette modernité, la quête de la vérité, la quête ostinè del fandre se battaglie, même si le eu de procès, même si le condamné par l'inquisition, même si le fè l'abjure, même si le risqué la prison, la perpétuité, lui, il était l'héros moderne, parce qu'il s'est battu pour ses valeurs. Ça, Bertolt Brecht le met en lumière dans, son, dans sa pièce sur Galilée Galilée. Maintenant, on passe... On va parler de la vie, des œuvres de Galilée. Pour ça, on prendra, comme je vous ai dit, plusieurs émissions, parce que c'est un argument qu'il faut bien développer. Galilée, c'est personnage, c'est philosophe et scientifique fondamental du XVIIe siècle, né en 1564 à Pise. D'abord, il s'iscrit à la faculté de médecine. Après, il quittera la faculté de médecine pour s'iscrire da suivre ses passions et s'iscrire dans la faculté de mathématiques. Là, alla facoltà di matematica, il connetterà son prof Ostilio Ricci, che è élève di Niccolò Tartaglia. Niccolò Tartaglia è un gran matematicien. Grazie a Ostilio Ricci e dunque aos insegnamenti di Niccolò Tartaglia, il s'approcherà a Archimède, all'ingegneria di Archimède. Et donc, il a un approche concret, pragmatique aux mathématiques. Et c'est plus la numérologie, les réflexions un peu magiques qu'il y avait à cette époque-là, mais c'était, il a un approche concret, scientifique aux mathématiques, à la mathématique et à l'ingénierie d'Archimède. Avant des ans, en 1500, en 1986, il publie son premier petit traité, qui était un petit manuel, s'appelait La Bilancetta. La Bilancetta, c'était un petit balance qui servait pour mesurer les poids spécifiques. Les poids spécifiques, c'est une notion qui viendra après. Mais Galilée, déjà dans la Bilancetta, il a l'attention sur gravitas in specie, après il développera cette conception-là. La gravitas in specie, c'est le poids d'un objet selon son volume. Ça s'approche beaucoup au poids spécifique. Et dans la Bilancetta, déjà, il y a toute cette attention pour la mesure exacte. Le concept de l'exactitude dans la science, pour Galilée, c'est fondamental. L'exactitude dans la science, c'est quelque chose... En fait, selon Galilée, la nature, la science, parle selon les langues de la mathématique. Si tu ne connais pas les langues de la mathématique, tu ne pourrais pas comprendre les livres de la nature. Et la mathématique, c'est une science exacte, ce n'est pas une science qui se base sur l'approximation, ce n'est pas une science qui se base sur la logique astreinte. Il envoie son écrit La Bilancetta à Guidobaldo del Monte, qui est un personnage célèbre de la cour de Médicis, et Guidobaldo del Monte l'envoyera au gésuite Cristoforo Clavio. Cristoforo Clavio sarà un personaggio che converrà, sarà très présent dans la vie di Galilée e partagerà cette visione heliocentrique. E se, même si c'est un gésuite, il est quand même un gésuite très moderne dans ses positions et ouvert à l'intérêt de la science et à l'intérêt de l'astronomie. À cette époque-là remonte la polémique que Galilée fait sur les œuvres de Tasso et d'Ariosto. Secondo Galileo, Tasso, dalla Gerusalemme dei Livrei, c'était le grand intellettuel, le grand écrivain, Tasso e Ariosto, c'était le grand écrivain della generazione avant Galilée. Secondo Galilei, Tasso, dalla Gerusalemme dei Livrei, il se livre a delle descrizioni in intarsia. Intarsia, se vuol dire il macchetè, son discours è poétique e Pascheira si poetica e si confiù, Pascheira un po' vortè di soggè. Par contra, Ariosto, se non Galilei, Ariosto è l'Orlando Furioso, secondo Galilei Ariosto è la beaucoup plus d'efficacité, il a un raisonnement plus scientifique, il se rapproche lui-même à l'écriture de l'Ariosto, parce qu'il a un raisonnement beaucoup plus scientifique, il est aussi ironique, l'ironie c'est une arme fondamentale che Galilei utiliserà dans son écriture. Pardon. Pendant ces années à Pise, Galilei écrira, mais il publiera pas un autre traité qui s'appelle De Motu, qui est un traité qui après utilisera, sera repris dans son dernier œuvre de 1638, il discours et dimostrazioni intorno a due nuove scienze. E on va dire qui parla intermediation de Guidubaldo del Monte. Il Galilei con Sarpi, e Sarpi c'était un grand aristocrate, ma aussi un persona très un historicien, un persona vraiment ante un persona della République des Lettres. La République des Lettres c'était un cercle littéraire énorme qui était proche de la réforme à l'époque du protestantisme, là où l'époque di Galilei aussi. Donc lui il est proche de la République des Lettres, c'est un grand intellectuel, c'est un historicien. E Sarpi c'est le pont qui le metterà après en contact avec l'Université de Padoue. Et en 1992 Galilei il riceverà un poste all'Université de Padoue. Là on s'arrête et on va écouter une musique composée par le père de Galilei, qui était un musicien, Vincenzo Galileo. S'appelle Salterello e c'è un petit composition qui a un goût renaissemental. On va l'écouter. Thank you. Allora, on revient à nous, on dit que Galilée il est à 1592 à Padoue. Dans cette période-là, il connaîtra des personnages très importants comme le cardinal Bellarmino, le cardinal Cesare Borromeo, Jean-Baptiste Delaporte, qui est un scientifique napolitain, Niccolò Claude Fabbri de Pierre, qui est un provençal qui lui défendra, lui allégera la peine pendant le procès de 1633. Giovanni Francesco Sagredo, qui è un personaggio fondamentale per Galilei, che è un gentilhomme très cultivé, vraiment illuministe ante litteram avant l'età. Il è le personaggi après, sarà un dei personaggi dell'œuvre plus importante di Galilei, il discorso sopra i due massimi sistemi del mondo. Le discorso sulle maximum system du monde. E il sarà la persona che rappresenterà le idee copernicane e galileane. Ma on parle un peu de cette République de Venise dans ces années-là, les années dans lesquelles Galilée arrive à Padoue. Donc, la République de Venise est en train de non seulement avoir conquéri, avoir des possessions dans toute la Méditerranée, surtout orientale, mais aussi Venise, elle rentre dans les terres, elle rentre par exemple à Padoue, qui c'est l'université vénitienne qui est dans les terres, et il y a des exigences d'assainissement, marécage qu'il y a à faire, donc Galilée il est beaucoup engagé dans cette œuvre ingénieristique. La Venise il a un très puissant arsenal, là où sont bâtis les navires de guerre, les galets, et Galilée s'engagera et sera augmentant ingénieur. Son esprit pratique, son ingénierie, toutes ces découvertes seront très utiles aux arsenals et même les travaux des artisans des arsenals, de l'arsenal seront très pratiques et très utiles à Galilée. Donc il y a cet échange toujours avec une culture pragmatique. Venise, il a les verriers les plus connus au monde, même aujourd'hui les verriers de Venise à Murano sont les plus connus au monde. Et ça lui permettra de développer des choses desquelles on va parler bientôt. Et Venise, c'est surtout une république, à différence de tous les autres États européens qui étaient des royaumes. C'est une république, et donc c'est une république ouverte, où il y a une grande liberté d'expression, où il y a par exemple, en Italie, Venise, c'est là où les livres qui normalement étaient censurés dans le reste de l'Italie, ils venaient publiés à Venise, ils étaient publiés à Venise. Donc, il y a même une culture, une liberté culturelle beaucoup plus élevée que dans les royaumes comme le Grand-Duché de Toscane ou, bien sûr, la papauté ou le royaume du sud de l'Italie, etc., tous les petits royaumes d'Italie. Donc Venise, c'est vraiment un état ouvert. Et c'est là que Galilée, il invente, première chose, en 1606, il fait 60 esemplaires de compasso, les compas géométriques, et il diffuse ces 60 esemplaires de compas géométriques et il les donne surtout pour des raisons de navigation à l'arsenal. Et il y a une polémique qui installe avec son élève Capra. Capra dit d'avoir écrit lui-même les traités sur le compasso qui a écrit Galilée, c'est écrit par lui. Il y a cette polémique. Après, Capra a appelé à témoigner, Galilée le dénonce à l'autorité, il est appelé à témoigner E il semen pa expliqué en quoi consiste, comment s'utilise ce compas-là. A 1604-1605, il y a l'osservazione di un supernova. Un supernova è un'étoile chimère che esplose, c'è un bombe nucléaire, par le franciscains Altobelli. E ancora il y a cette polémique avec cet étudiant-là, Capra, qui voit une explication christologique dans ces phénomènes astronomiques. Il dit que la supernova, on a vu ce phénomène dans le ciel, cette explosion qui s'est vérifiée 33 ans après, une vieille explosion du même type, une vieille apparition du même type. Donc c'est un phénomène christologique parce que c'est expliqué avec l'âge de la mort du Christ. Ces explications-là qui sont vraiment quelque chose qui sont liées plutôt à la magie, plutôt à tout ce qui était du Moyen-Âge, ils ne doivent pas nous étonner. Ils ne doivent pas nous étonner pour la période, parce que la période, c'était la sortie du Moyen-Âge. Donc, il y avait encore cette voile, comment dire, d'ignorance, d'explication des choses scientifiques par la magie, par la religion. Ce n'est pas une chose qui doit nous étonner. Galilée, naturellement, il est contre ce type d'explication de Capra. Il n'est pas. Mais en même temps, Galilée, il est encore prudent. Il ne veut pas donner, il ne veut pas trop pencher vers des positions copernicanes. Il ne se penche pas encore vers des positions copernicanes. E remonte a 1610 un œuvre qui est fondamentale pour Galilée, qui a par contre un succès énorme, qui est le Sidereus Nuncius. Allora, il faut dire che Galilée, grâce à l'amélioration d'une invention, les lunettes. Ces lunettes, il était inventé par les Hollandais. Les lunettes pour voir au loin, pas les lunettes de vue. Il était inventé pour les Hollandais. Sauf que Galilée, grâce aux artisans de Murin, il perfectionne les lunettes et il devient 10 fois plus puissant ces lunettes par rapport aux lunettes hollandaises. Donc, les lunettes inventées par Galilée, qu'est-ce qu'il fait? Il fait monter tous les aristocrates, y compris les doges, tous les aristocrates, l'oligarchie de Venise, il fait monter sur le tour. Et il commence à faire observer les paysages à travers ses lunettes. Et les gens sont vraiment choqués parce qu'ils voient, ils voient quelque chose d'hallucinant, ils voient les choses vraiment de près. Galilée, qui est conscient de la puissance de son invention, il commence à non seulement l'appliquer par des fins commerciaux, par des buts commerciaux et militaires. En fait, ça devient quelque chose qui sera utilisé de l'arsenal de Venise, mais même des marchands. Les marchands, ils vendaient leur prix à bas prix grâce aux lunettes. Quand ils voyaient qu'un autre navire s'approchait, donc ils réduisaient les prix pour vendre toute la marchandise. On comprend qu'en termes militaires, les lunettes ils ont un avantage énorme en cas de guerre, par esempio entre Venise e l'Empire Ottoman, on suppose. Sì, on peut voir de loin déjà les avversaires et on peut se préparer contre les avversaires. Mais là, la chose qui a vraiment permis à Galilée d'aller au-delà des conceptions ptolémiques, des conceptions aristotéliciennes, d'aller à la découverte de l'univers, c'est justement ces lunettes-là. Il fait des découvertes qui met en discussion entièrement la conception qui jusqu'à maintenant on avait eue de l'univers. Les lunettes sont un instrument qui donne la tangibilité des théories copernicaines. Grâce aux lunettes, déjà Galilée, il découvre que la surface de la Lune, elle n'est pas lisse et parfaite, comme tous les mondes, tous les péripatéticiens pensaient. Qu'est-ce que ça veut dire péripatéticien? Savian du grec Aristote, il aimé donné de cure, quand il donné de cure se s'élève, il était à côté du temple d'Apollo Linceo, c'est pour ça qu'il dérive le terme lycée. Dans cette école, il se promenait et il discutait en même temps. Péripatétique, ça veut dire se promenait et discutait. On appelle péripatéticienne ce qui suit la philosophie aristotélicienne, ce qui suit la pensée aristotélicienne. Donc, les péripatéticiennes sont les aristotéliciennes qui l'ont suivi pendant le Moyen-Âge, pendant la Renaissance. C'est qui ont les idées aristotéliciennes. Donc, c'est essentiellement l'Église, les Jésuites et tant d'autres gens et philosophes attachés à ce monde antique, on va dire. Donc, les péripatéticiennes, comme je vous ai dit au tout début, ils avaient une idée de la perfection de l'univers. Quand Galilée découvre que la surface de la Lune, elle était comme la Terre avec des cratères, elle était imparfaite, il avait des cratères, il y avait des volcans, il y avait des vallées, elle était pas lisse comme on a imaginé, le ciel parfait, les premières motères immobiles, comme disait Aristote. Non, le ciel n'est pas parfait, donc il met en crise les péripatéticiennes. Déjà, cette découverte s'était faite à Eienu par Sarpi, mais Galilée ne le menzionne pas dans le Siderius Nuncius. E ça, il provoca un peu des incompréhensions entre Galilée e Sarpi, même si sono amici. Il y a un écrivain, pardon, un professeur contemporain, un femme, Marjorie Hope Nicholson, qui, avec cette découverte qui sont faite sur le Siderius Nuncius, il dit que Galilée fait la rupture du cercle par rapport au ce qui venait avant lui, il casse un scission, il marque un scission. Donc, après Galilée, on aura Newton, on aura Descartes, Cartesio, on aura d'autres Milton, etc., etc. La modernité vient avec Galilée, en fait. Donc, Galilée marque cette rupture du cercle. Après, on voit che Galilée... la surface de la surface de la Lune, ce n'était pas découvert par Sarpi, mais c'était la lumière cendre. La lumière cendre, je vous explique. Quand on voit la Lune, qui est au dernier quart, on voit un côté de la Lune qui est en lumière. Cette lumière de la Lune, là, elle était vérifié à Eienu par Sarpi et après il était c'était surligné sur le Siderius Nuncius. C'est pour ça que Galilée ne cite pas Sarpi et Sarpi s'en va avec lui. Après on a les quatre satellites de Jupiter. Galilée découvre quatre satellites de Jupiter. Il appelle les satellites cosmici. Cosmici pourquoi? Par cosmos, ça veut dire l'univers, et aussi en même temps parce qu'il veut faire un hommage à au duc Cosimo, Cosme de Toscane, grand duc de Toscane. Donc cet hommage qu'il fait au grand duc de Toscane, il va nommer les quatre satellites di Jupiter cosmici, c'est une chose qui lui permettra à 1610 de pouvoir retourner à la Grand Cour Ducale. Et il va retourner à la Grand Cour Ducale, donc il quittera Venise pour aller dans sa patrie à Florence, alla Grand Cour Ducale, mais avant d'aller là-bas, il va assolument une chose. Première chose, qu'il soit reçu avec des titres. Mathématicien premier et philosophe. Pourquoi mathématicien premier? Parce qu'il est un mathématicien. Philosophe, parce que dire à l'époque la philosophie et les mathématiques et la science, c'était une seule chose. La philosophie naturelle, c'était rien d'autre que la science. Lui, il ve être reconnu comme philosophe, parce que Aristote, qui était le philosophe par excellence suivi par tout le monde, Aristote, c'était le grand philosophe. Lui, il ne veut pas être moins que Aristote. Donc, d'un côté, oui, le mathématicien de cours, mais en même temps, est philosophe. Et en plus, Galilée, à partir de sa période du Grand-Duché de Toscane, il sera libre de l'enseignement à l'université et il se pourra totalement dédier à ses recherches. Donc, il fera sa vie et ses recherches. Pardon. Il faut considérer que Galilée, avec son retour en Toscane, comme dirà Sagredo, il quittera un république pour un royaume, donc il quittera une certaine liberté pour une certaine forme di asservage, on va dire, être asservi à un roi, à un monarche. Ma in realtà Galilei aveva beaucoup de liberté au royaume de Toscane, au grand-duché de Toscane. Il faut dire aussi qu'il est Sidereus Nuncius, il n'est pas écrit en italien. Je vous ai dit que Galilée est écrit en italien, mais cette fois-là, il a voulu écrire en latin. Il a écrit ses traités en latin, mais d'une façon très simple. Même Kepler, qui est le grand autre scientifique dell'epoca, Kepler, il travaille à la cour impériale de Prague. Kepler, après le Sidereus Nuncius, il aura, après la clarté, la semplicité dans laquelle il écrit le Sidereus Nuncius, Kepler, qui écrit lui aussi en latin, lui il écrira dans une façon beaucoup plus claire, sans des digressions, sans anecdotiques, sans des anecdotes, il écrira dans une façon beaucoup plus claire. Et surtout, il faut parler de la simplicité, de la scientificité et de la façon analytique dans laquelle il a écrit, oui, bien sûr, mais il faut parler du succès énorme et planétaire que ce livre va avoir. Il est traduit en chinois, il est traduit en russe, on pense à l'Europe de l'époque, un livre comme ça, il n'était pas du tout... Le livre à l'époque, il a une diffusion énorme, il a un succès énorme. Et il met Galilée, ce livre-là, comme une figure de premier plan, un scientifique de premier plan, sinon un des plus importants, sinon le plus important de son époque. C'est pour ça qu'en 1611, Galilée il est invité par le principe, par le prince Cesi, qui a seulement 26 ans, a rejoindre l'Académie de Lincei, de Lince. Lincei, ça veut dire, ça vient des Lynx, ceux qui ont l'œil de la Lynx, ceux qui voient les choses clairement. Cette académie-là, c'est une académie fondamentale qui est au sein de la papauté, au sein de l'État du pape, de l'État papal, et c'est fondamentale parce que c'est une façon, c'est un'accademia où Galilée travaillera pendant toute sa vie, il aura le soutien et l'appui politique et économique. Même si le prince Cesi a seulement 26 ans et Galilée il a déjà 46 ans quand rejoint l'accademia, d'un côté le prince Cesi sarà per Galilée un person qui lui permetterà d'avoir l'appui politique parce qu'il était un grand. Comment dire, il était presque machiavellique, le prince Cesi, il avait un pouvoir d'introduire le nouvelle science, il était un grand amoureux pour le nouvelle science e il avait un pouvoir de développer les découvertes, de soutenir les découvertes près les cours, non seulement papales, mais les cours les plus importants d'Europe. Donc c'est un appui très fondamental pour Galilée, même s'il est très jeune. E Galilei si è naturalmente riconosciuto come le maître par excellence par le prince Cesi, è veramente l'aspirateur fondamentale du prince Cesi. E a 1611 Galilei va a Roma e per l'intermediazione du prince Cesi e du gesuite che è un revoir, Cristoforo Clavio, gesuite, membro du collège romain qu'on a déjà contre nous, Se gesuit là, il confirmerà Cristoforo Clavio, le decuver du siderius nuncius. Donc, a 1611, on a aussi l'abbandon de la République de Venise pour retourner a o Granduché de Toscane. E là, on va, come dire, on tour un peu un page sur la vie de Galilée. À ce point-là, je vous ai écouté une chanson un peu plus allègre, on va dire. On va écouter une chanson sur Galilée.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Mamma mia,
mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Alors, on revient à nous avec cette parenthèse des Queen qui nous ont fait délicier avec cette musique prise par Bohemian Rhapsody. Galilée, Galilée. Mamma mia, mamma mia. Alors, on revient avec le dernier argument du jour. Il faut dire qu'en 1611-1612, à Florence, il y a la polémique sur la flottation. C'est une chose qui, à cet stade-là, ça peut sembler un peu pas important, mais qu'après, on verra, ça sera très important. Infatti, Galilée, il fait, comme je vous ai dit, il analyse l'eau et la glace. Pour les péripatéticiens, c'était la glace, c'était plus puissant, plus lourde de l'eau pour une question de volume. Pour Galilée, c'est une question de gravitas in specie, ça veut dire de poids spécifique. Il se base pour faire ses études sur des ponderibus de Archimède, qui Tartaglia lui a transmis, qui était le maître de Ostilio Ricci. Donc, il élabore un discours sur les choses qui sont sur l'eau, les cose che stanno sull'acqua. E fait un polémique théâtrale qui se développe dans la cour du Grand Duc. Ça, c'est la première œuvre qui fait à la cour du Grand Duc. On a l'école de Galilée contre l'école des Péripatéticiennes. On a Ludovico delle Colombe e Vincenzo di Grazia qui sont les Péripatéticiennes. Et du côté de Galilée, on a son élève Benedetto Castelli. Benedetto Castelli qui est professeur à l'Université de Pise et qui s'occupe de la canonisation de l'eau, est un ingénieur et c'est là un personnage fondamental aussi parce qu'après il travaillera à la cour papale, il sera prof à la Sapienza et sera lui qui va diffuser après la mort de Galilée les idées galiléennes en se basant sur les études galiléennes. En 1615, il y a ces lettres, je vous ai dit, il y avait ces lettres polémiques de Ludovico delle Colombe et de Vincenzo Castelli qui défendaient la position selon laquelle l'eau c'était plus puissant parce que les volumes, la glace c'était plus lourde parce que sa volume c'était plus grand et pas parce que les poids spécifiques c'était plus lourd. Et en 1615, il répond Galilée aux des lettres de Colombe et Grazia. Dans ce discours-là, il fait l'esempio, il parla a una fanta. La fanta, c'est un cervese. Il immagine de parler à sa cervese. E il demande à sa cervese: selon toi, le lard congelé, c'est plus lourd du lard non congelé? E le large lait, c'est plus lourd du large lait. E la Fanta répond: mais quel autre Fanta vous a dit ça? Quel autre cervezza vous a dit ça? Quelqu'un qui n'a jamais vu un morceau de lard, sûrement. E cette polémique-là, on voit déjà dans la façon que Galilée a de c'est plus lourd ou c'est pas plus lourd? Ce n'est pas plus lourd parce que c'est une question de volume, c'est pas une question de volume. Donc cette réponse qui est. On voit comme Galilée, il peut parler aux grands scientifiques de l'époque, comme Kepler, comme les grands scientifiques, les princes, l'Académie de l'INSEE, mais il peut parler dans son langage aussi à l'homme de la rue, aussi à la cervelle, aussi à tout le monde, vraiment. Il a cette rhétorique, il parle en italien très moderne et très compréhensible. Avec ça, avec ces scènes de la vie quotidienne dans lesquelles Galilée commence à se plonger dans ses écrits, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois. Et on continuera avec l'étude de cette personne, personnage, philosophe et écrivain, très intéressant et très contemporain. Je vous dis à bientôt et à dès lundi avec la continuation de Galilée. Et je vous remercie pour votre patience et pour votre écoute. Et à bientôt sur Nino Domani à Palermo. Allez, bisous à tout le monde.
Io sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo. Matteggio a prepotente, a picchiatello, poi saputello, eppure nulla so. Marcello, io sono il piccolo Marcello, paffutello, sbarbatello, sfrontatello, spacciatello.
Marcello,
sono più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello,
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ce l'ho, ma chi che bingrindina che ce l'ho.
Marcello,
sono fatuo come un vendicello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma. Ormai con la bellezza solamente si può ghermire la celebrità. Sono molto noto infatti alla gente che come me non tiene a che pensare. Io so cantare come Raffaiati e vesto con quel certo non so che, ho gusti delicati e raffinati, vorrebbe ognuno somigliare a me. Marcello, tutti mi chiedono il modello della giacca, del cappello, del colletto e dell'ombrello.
Marcello,
mi copiano tutti questo quello, dalla scarpa di vitello al mio passo di cammiello. Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù, non vedo che me, non so neanche me. Marce, beh, che c'è?
Marcello,
si a mezzavoce canterello, qualche sciocco ritorniello, canto in tutti solo quello.
Marcello,
ma soldato questo quello, ma sta a casa, signor Marcello. Perché son bello, sono il bello di mamma.